14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations hommes-femmes ont plus que changé depuis 30 ans et beaucoup plus que durant ces quelques siècles plus anciens. Alors les femmes ont acquis leur liberté, à la fois financière mais également sexuelle, et ça c'est tant mieux, même si il me semble qu'il y a encore une marge de progrès à faire. Peut-être bien sûr sur le plan sociétal, certes, mais je peux vous affirmer que sur le plan sexuel, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire évoluer. Bref, alors cette évolution, elle a transformé forcément les relations affectives et ça a évidemment bousculé beaucoup les hommes. Et c'est ce point qu'on va évoquer ensemble durant ces deux heures avec Arthur Vernon, qui est mon invité, qui est un franc défenseur de la liberté sexuelle. Je pense d'ailleurs qu'il est tout à fait d'accord pour que les femmes continuent à se libérer. Néanmoins, il semblerait bien que le féminisme a créé une plus grande misère sexuelle, à la fois dans les couples, mais également chez les hommes, puisque de plus en plus d'hommes, et ça c'est vrai que les enquêtes le montrent, ont des problèmes d'érection, donc sont un petit peu impuissants, au sens propre, oui, mais également au sens figuré. Alors j'ai une analyse qui n'est peut-être pas d'ailleurs la même que celle d'Arthur Vernon, et tant mieux, hein, puisque nous avons toujours ensemble des échanges tout à fait intéressants. Mais je vous propose que vous aussi, vous veniez donner votre point de vue. Est-ce que les hommes seraient en perte de virilité? Est-ce qu'il faut les aider à retrouver leur confiance, ou en tout cas à trouver leur place? J'invite évidemment aussi les femmes à témoigner, et vous pouvez nous appeler donc sur Sud Radio au 0826 300 300. Je sais qu'il y a des couples qui sont ensemble et qui rencontrent peut-être un peu plus de conflits, alors vous pouvez évidemment nous appeler, hein. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont seuls, donc profitez-en pour venir nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. Arthur Vernon, bonjour.
Oui, bonjour Arthur. Brigitte.
Alors Arthur, c'était votre idée, hein, ce sujet d'émission.
Oui, alors à une époque où on n'était pas forcément dans cette situation sanitaire, mais c'est vrai que c'était un sujet, parce que cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, si l'on va jusqu'au moment de MeToo, où on a une forme de féminisme nouveau qui s'est un petit peu développé, ce qui est très bien. Et ce qui me semblait un petit peu moins bien, c'est que ce féminisme avait peut-être tendance à occulter un autre message, qui est celui de la misère sexuelle masculine, et ça me semblait intéressant qu'on puisse également le confronter, parce qu'à mon avis, ce sont deux messages qui sont tout à fait complémentaires et qui, à mon avis, permettraient une plus grande efficacité du message féministe dans son ensemble, message auquel j'adhère, mais qui mériterait encore une fois d'être complété pour lui donner encore plus de force et de façon à ce que les hommes puissent également s'y retrouver.
Donc ça veut dire quoi, Arthur Vernon? Ça veut dire que très bien que MeToo soit passé par là et que les femmes qui ont été victimes puissent enfin parler et que enfin on limite justement le harcèlement de rue et évidemment la violence conjugale et les viols. Mais ne faut-il pas quand même tomber dans l'excès, c'est-à-dire que tous les hommes seraient des vilains garnements et toutes les femmes des victimes? C'est ça le fond de votre pensée ou pas?
Oui, alors c'est effectivement un petit peu lié à cela, c'est-à-dire que le message global depuis deux ans associe beaucoup le masculin, on va dire, au mal, mais M-A-L, au sens de l'agresseur et au
prédateur,
sens de façon générale, de prédateur, voilà, dans une société dite patriarcale, et on oublie un petit peu de replacer les choses dans leur contexte. Alors évidemment, c'est très bien que cette parole se libère, c'est très bien que les femmes puissent exprimer tous les travers de cette société qui sont évidemment extrêmement dommageables et qui sont invivables et qui ne sont pas souhaitables du tout pour les femmes, et nous-mêmes en tant qu'hommes, on n'a pas du tout envie que les femmes qui sont autour de nous puissent subir ces assauts et ces assauts permanents, que ce soit dans le cadre de leur travail, que ce soit dans la rue. Donc c'est vraiment très bien que cette parole se soit libérée, mais c'est vrai qu'autour de cette parole, on entend un petit peu le fait que les hommes, de façon générale, sont complices de cet état d'agressivité sexuelle, et on entend d'une certaine façon que certains arguments des hommes sur le fait de notamment, on va dire, de la biologie, sur le fait qu'il y aurait plus de désir du côté des hommes, ce serait quelque chose qui, en fait, serait inaudible pour les femmes, et c'est un argument qu'elles souhaitent détruire. Et c'est cela qui m'a peut-être le plus choqué, en fait, dans l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui se comportent très mal, notamment d'un point de vue sexuel, qu'on doit remettre en cause le fonctionnement biologique de la sexualité, qui concerne d'ailleurs tout autant les hommes que les femmes, et qu'on puisse toujours considérer en fait que la sexualité c'est quelque chose d'important, qu'il puisse y avoir des dérives dans la sexualité d'un point de vue social, mais que ces dérives vis-à-vis des femmes, elles se concrétisent par une grande agressivité des hommes, mais que ces dérives, elles existent aussi pour les hommes, et elles se concrétisent pour un certain nombre d'entre eux par une situation de misère sexuelle. Et par misère sexuelle, j'entends principalement le fait d'avoir une difficulté à avoir des relations, notamment sexuelles, au sens plus large, ça peut être aussi des relations affectives, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont exclus de la sexualité. Or, aujourd'hui, il n'y a fait pas de doute que la sexualité est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je considère que c'est un besoin et on pourra revenir sur cette appellation du terme besoin. Mais même l'OMS aujourd'hui a défini, et ça même depuis une quarantaine d'années, le concept de santé sexuelle. Le fait de définir une santé sexuelle montre c'est quelque chose qui relève bien du besoin de chaque individu et que cette sexualité doit pouvoir être épanouissante pour tout le monde. Et peut-être qu'en fait le féminisme y gagnerait également, si, alors peut-être ce sera dans un deuxième temps, mais qu'il puisse considérer qu'on a un vrai problème également de misère sexuelle du côté des hommes. Et la meilleure solution ne consiste pas à opposer, comme on l'entend un peu en sous-jacent dans le message ambiant, les hommes prédateurs d'un côté et les gentilles femmes de l'autre, mais plutôt d'essayer de rassembler tout le monde et de se dire, ah ok, alors les femmes disent, nous avons un problème, ça c'est très bien, mais peut-être que les hommes puissent se dire aussi, ah nous aussi nous avons un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution ensemble pour que tout se passe mieux? Et moi, personnellement, je suis absolument convaincu qu'on peut trouver une solution commune qui permettra aux femmes et aux hommes, tous les deux, de vivre mieux. Mais ça ne passera peut-être pas
Alors, ce
par le
sera.
schisme qu'on entend aujourd'hui.
Non, non, ça c'est sûr, ce sera peut-être pas aussi simple que ça, mais ce qui m'ennuie beaucoup, Arthur Vernon, c'est que pour une fois, on a l'air d'être d'accord.
Ah ben ça, c'est incroyable, c'est formidable.
C'est incroyable, hein, vous êtes d'accord, hein? Il y a peut-être une
Voilà,
chose
on est
sur laquelle
d'accord
on n'est
sur
pas
ce point.
d'accord,
C'est sur le
une
besoin
chose peut-être sur
sexuel.
laquelle. Non, 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 moi je suis complètement d'accord avec vous, les hommes ont plus de besoins sexuels. Enfin, il faudrait s'entendre sur le terme besoin, mais en tout cas, ont plus d'envie sexuelle que les femmes. Mais peut-être aussi parce que beaucoup de femmes se sont coupées de leurs besoins sexuels. Elles ne savent, elles ignorent qu'elles ont des besoins sexuels. Et je crois que là, vous serez d'accord aussi avec moi. Non,
Ah ben évidemment, je suis totalement d'accord, oui.
La chose sur laquelle on n'est peut-être pas d'accord, c'est que moi je ne crois pas que ce soit, enfin que les problèmes que subissent beaucoup de femmes, de harcèlement, d'abus, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit que la faute du patriarcat. Moi, je pense qu'on met beaucoup trop le tout sur le dos du patriarcat. Je pense que il y a derrière d'autres choses qui, à mon avis, sont aussi responsables, et notamment une difficulté aux femmes de savoir ce que c'est qu'être femme. Et ça
Oui.
vient pas du patriarcat, ça vient de la puissance maternelle qui ne laisse pas la fille se devenir femme. Et beaucoup de femmes sont restées dans l'emprise de la mère et deviennent mères sans jamais être femmes. Et donc,
Oui,
passent à
alors
côté de leur
ça c'est.
sexualité.
Ah oui, et donc ça, évidemment, c'est totalement dommageable. Et évidemment, comme vous vous en doutez, je vous rejoins sur ce point, sur le fait qu'il est indispensable,
Ben alors.
justement pour qu'il y ait une meilleure communication entre les hommes et les femmes, qu'il y ait également un accès beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus simple, beaucoup plus serein et beaucoup plus sain également à la sexualité du côté des femmes. Je pense que peut-être sur les générations un petit peu plus jeunes, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui, et tant mieux, parce que c'est un corollaire, à mon sens, tout à fait indispensable à un épanouissement social sain, c'est-à-dire il faut qu'à la fois les hommes et les femmes s'y retrouvent dans la sexualité. Et alors, il y a peut-être un problème, comme vous dites, alors je ne sais pas si je n'aurais pas la compétence pour vous dire si cela revient ou non de l'éducation entre les mères et les filles, mais je vois quand même que les jeunes générations essayent de prendre ce problème à bras-le-corps, et on a quelque chose qui sera indispensable à traiter à la fois par les hommes et par les femmes, c'est évidemment une sexualité qui soit une sexualité épanouissante pour les uns et les autres. Quand je vous parle de générations un peu plus jeunes, je vais faire référence par exemple à des comptes Instagram qui traitent de ce sujet, et je trouve que c'est formidable. Par exemple, les comptes Tajoui sur Instagram, c'est un compte qui va justement dire « Ah mais voilà, il faut prendre soin du plaisir de la femme et on va voir, on va donner des astuces aux hommes pour favoriser cette écoute du plaisir féminin. » Et puis vous avez son pendant, qui a un peu moins de succès aujourd'hui, parce qu'on pense que pour les hommes c'est peut-être un peu plus évident, mais ça va se développer, qui est le compte Tubande, où il y a aussi une petite injonction qui est faite aux hommes sur le sujet. Je dirais, ça c'est formidable, parce que ce sont des sites qui vont permettre d'aboutir à une sexualité plus épanouissante entre les hommes et les femmes, et c'est indispensable. Cela dit, c'est un deuxième stade de misère sexuelle, c'est-à-dire c'est un stade où on a un partenaire, mais on n'arrive pas encore à faire des choses très sympathiques ensemble. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir progresser sur ce point, et c'est indispensable. Tout à l'heure, j'évoquais un stade de misère sexuelle qui est, je dirais, encore un peu plus important, qui est celui de l'absence de partenaire. Et ça, il faut bien comprendre pour les féministes aujourd'hui que beaucoup d'hommes souffrent de cette absence de partenaire. Alors, certainement les femmes aussi, mais c'est de façon moins prégnante. Et encore une fois, il y a aujourd'hui des possibilités. Si on trouve une façon plus heureuse de pratiquer la sexualité, plus épanouissante pour tout le monde, que chacun puisse s'y retrouver.
Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue sur justement la question de la prostitution, parce que pour beaucoup d'hommes qui sont un peu dans la misère sexuelle, la prostitution était une solution qui aujourd'hui devient complexe, puisque les clients sont pénalisés, c'est aussi quelque chose contre, enfin les féministes, les nouvelles féministes sont absolument arc-boutées contre la prostitution.
Alors, vous utilisez à très juste titre le terme de nouvelle féministe. Il existe quand même depuis déjà, allez, au moins une vingtaine d'années, un courant féministe dit pro-sexe, que je rejoins totalement, qui est un courant féministe qui va à la fois dire qu'une femme fait absolument ce qu'elle veut de son corps, et donc si une femme a envie de se prostituer, et c'est tout à fait respectable, il n'y a pas à sacraliser la sexualité, le corps c'est le corps, donc je suis évidemment tout à fait pour que chaque être humain puisse disposer de son corps librement, et que si une femme a envie de se prostituer, elle puisse le faire, de la même façon que si les êtres humains ont envie de faire de la pornographie, ils puissent faire de la pornographie. Ça c'est le mouvement féministe pro-sexe, donc il y a bien des femmes qui soutiennent ce mouvement, et je reconnais peut-être un peu tristement que les derniers mouvements féministes ne s'inscrivent pas totalement dans cette mouvance, et je le regrette. Ce que je regrette aussi, vous l'avez signalé, c'est que les prostituées actuellement sont confinées, donc encore une pensée pour tous ceux qui sont des hommes célibataires. Évidemment que la prostitution peut aider dans le cadre de la misère sexuelle. Je pense que la plupart des prostituées pourront dire que les clients sont plutôt des gens qui sont gentils et non pas violents à leur égard, même s'il y a évidemment toujours des exceptions. Bien et sûr. Pourquoi ils sont plutôt gentils? Parce qu'ils sont très reconnaissants. Ils sont très reconnaissants que ces prostituées puissent venir apporter une aide par rapport à leur misère sexuelle.
Moi, j'irais un peu d'amour plus que de sexe, d'ailleurs. Arthur Vernon, évidemment, on parle de la prostitution libre, et on ne parle pas, évidemment, de la prostitution esclave qui est menée par des mafias de toutes sortes. Alors, Arthur Vernon, on parlera aussi durant ces deux heures de votre site mysweetfantasy.com. On verra aussi quels sont les courants, quels sont les fantasmes nouveaux, même si j'imagine aussi que vous êtes, pour l'instant, un petit peu à l'arrêt vu les conditions sanitaires, mais bon, on parlera de tout ça également. On va se quitter un court instant et on donnera la parole à Didier, justement, qui est ravi de témoigner sur ce sujet.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Arthur Vernon, écrivain, scénariste et notamment également fondateur de ce site mysweetfantasy.com, où vous pouvez raconter votre fantasme et ensuite le réaliser grâce à ce site. Didier est avec nous. Bonjour Didier.
Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Vernon, bonjour tout le monde. Bonjour.
Alors, vous êtes assez d'accord hein, sur les dérives de ce nouveau féminisme, je crois.
Oui, c'est vrai. Oui, j'en avais déjà parlé. C'est vrai que c'est devenu. Après, c'est à la fois très intéressant hein, parce qu'il faut toujours regarder ce côté très positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une élévation de la femme en général dans tous les supports, dans le travail. C'est quelque chose que je soutiens d'ailleurs, et surtout dans ces périodes de confinement, quand je vois certaines violences qui peuvent traverser suite au confinement. C'est vrai qu'il faut toujours alerter quand il se passe des choses. Ouais, il faut faire très attention à ça. J'y fais très attention aussi de mon côté. Et oui, pour dire que c'est vrai que maintenant il y a un égal. En tout cas, j'en parlais avec des amis. Dans le fait simple d'une séduction ou d'une relation en sortie, c'est vrai que des fois il est plus facile d'aborder une personne. C'est assez malheureux, hein. Moi, je vous le dis, c'est une relativité par rapport à dialoguer avec quelqu'un à travers les réseaux sociaux, c'est plus facile. Des fois, c'est maintenant devenu plus compliqué en vrai parce qu'on est plus vite catalogué. Voilà, il y a une différence qui s'est créée. On peut vite dire ah ouais non, cette personne il est m'agresse ou il a pas trop de tact, alors que voilà, des fois il est plus facile de passer à travers.
Vous voulez dire que quand vous essayez de parler à une femme dans le but éventuellement de la séduire, bien sûr, dans la vie de tous les jours, très vite vous avez l'impression que la femme se méfie. C'est ça?
Oui, tout à fait. C'est un ressenti que j'ai eu avec beaucoup de mes amis. Hein. Oh, on en parle librement avec un respect énorme. Et c'est vrai qu'on a constaté ça au début. J'étais pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais c'est vrai qu'il arrive vite où il est plus facile des fois de parler à quelqu'un à travers, on va dire, un mur, hein, qui est d'actualité, qu'en vrai. Des fois, voilà, il y a une autre façon de communiquer qui s'est mise, qui est pour moi assez malheureuse, parce que voilà, dans cette élévation et dans le respect, et des fois maintenant il est plus compliqué de communiquer.
Alors
en direct,
que vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un de respectueux. Vous attribuez ça à quoi, Didier? Moi j'ai une idée, mais je vous laisse d'abord vous exprimer et je laisse Arthur s'exprimer. À quoi c'est dû à votre avis, Didier?
Bon, je pense que c'est dû tout simplement à la, comme je le disais, c'est ouais, l'élévation, le monde moderne, cette nouvelle forme de communication, et puis c'est voilà, la femme qui est sortie de son cocon de maman, comme vous disiez au début de l'émission, et son côté hors travail et qui a pris des responsabilités. Donc je pense que ça vient de là aussi, et c'est un équilibre, mais des fois c'est un peu plus gênant, des fois ça peut l'être.
Alors Didier, Arthur, vous pensez que c'est dû à quoi?
Alors déjà, en fait, je pense qu'il y a peut-être eu un problème qui a duré un certain temps sur comment draguer. Et je pense que peut-être aujourd'hui, un certain nombre de femmes n'apprécient pas, on va dire, une forme de drague à l'ancienne, un petit peu lourde, peut-être un petit peu grasse. Et pourquoi pas,
je dirais,
c'est un commentaire. Non, j'ai pas dit que c'était le cas de Didier, et qui lui-même d'ailleurs se pose des questions. Donc je ne dis pas du tout que c'est son cas, je dis juste que c'est quelque chose, il a discuté avec des amis, donc on peut avoir, c'est une question qui est en tout cas tout à fait légitime. Je pense que les femmes ont toujours envie d'avoir des interactions avec des hommes, la question est de savoir comment le faire, et peut-être qu'avant il y avait des façons qui n'étaient pas extrêmement élégantes de le faire, parfois un peu trop de lourdeur ou d'insistance, ce qui à mon avis n'empêche pas quand même de tenter sa chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que certaines femmes peut-être ont tendance à, dans la mouvance générale, à ne pas prendre un peu trop de recul, pas assez de recul par rapport à ce qu'on leur dit, et on a presque, on va dire, une injonction victimaire aujourd'hui. C'est-à-dire que
pour
être considéré en tant que femme, il faut quasiment tout le temps être victime. Et vous dites, ce n'est moins le cas sur les réseaux sociaux, mais en fait, pas tant que ça. Parfois, si un homme adresse un message, même extrêmement poli, sur les réseaux sociaux, mais qui est tourné de façon un peu ambiguë, eh bien, la fille qu'il reçoit peut en faire un screenshot, une capture d'écran, et hop, va le balancer en disant « Regardez le message que je viens de recevoir ». Bon, alors que le message, parfois, n'est pas extrêmement désobligeant. Mais c'est vrai que les filles se disent « Ah, que je suis forcément victime d'une pression des hommes ».
Mais moi,
je pense que c'est bien que les hommes se remettent en question sur comment draguer.
Oui, ça sans doute, mais il y a toujours eu des gens un peu, des hommes un peu lourds, et il y en aura toujours. Mais moi, je pense surtout que les femmes aujourd'hui, on leur a tellement bassiné qu'il fallait absolument qu'elles soient consentantes, qu'elles ne supportent plus qu'un homme qui ne les intéresse pas puisse leur adresser un mot gentil. Et je trouve ça terrible parce que ça sépare de manière presque définitive le camp des hommes et le camp des femmes, comme si bientôt on ne pourra plus se parler qu'entre femme ou en tant qu'homme. Moi, je considère que si un homme dit quelque chose de gentil à une femme, il n'y a aucune raison qu'elle considère, même si cet homme ne l'intéresse pas, qu'elle est agressée. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, je vous rejoins totalement.
On en arrive un peu là.
Oui, alors, et ça, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que c'est le sujet qui a été extrêmement polémique de la fameuse tribune d'il y a 2 ans sur la liberté d'importuner, à laquelle, à titre personnel, oui, moi j'adhère également. Si je trouve ça, le terme importuné a peut-être choqué un certain nombre de personnes.
Oui,
évidemment, il y a des limites. Voilà, il y a des limites dans ce qu'on dit par importuné. C'est vrai que si une fille se fait aborder toutes les 10 minutes dans la rue par quelqu'un, c'est extrêmement pénible et désagréable. Donc il y a maintenant, il y a aussi une légitime préoccupation sur le sujet d'être un peu plus vigilant du côté des hommes. Et en fait, je pense que c'est plutôt pour certains hommes étaient certainement extrêmement désobligeants, et c'est vrai que la malheureuse conséquence, c'est que tous les hommes en pâtissent un peu. Donc il y a encore une fois un effort à faire des deux côtés. Il faut que les femmes soient peut-être un peu plus souples et un peu plus tolérantes sur la façon de draguer.
Didier, vous avez l'impression aujourd'hui que vous pouvez plus dire à une femme dans la rue que vous croisez lui faire un sourire et lui dire vous êtes ravissante, c'est quelque chose que vous n'oseriez plus faire aujourd'hui?
Que oui, je le ferais beaucoup, mais bon, après, des fois, on voit à travers simplement un regard, un échange, une personne, on voit qu'on peut le faire ou qu'il y a une complet, tout simplement, l'homme ou la femme. Ça peut se voir, mais c'est vrai. Après, c'est quelque chose que, de toute façon, moi, j'aime pas du tout les personnes, les hommes qui voient une personne passer dans la rue, une femme, et qui siffle ou qui dit des trucs comme ça, c'est rédhibitoire, c'est inadmissible. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que, je ferais pas. Et même le fait de, comme il y a quelques années, j'ai pas trop connu ça parce que je suis quand même un peu, voilà, je sortais pas quand j'étais jeune, tout simplement. Mais le fait d'aller au bar, de commander un verre et l'offrir à une personne pour entamer la discussion, c'est du jamais fait.
Mais ça devient, voilà. Enfin, à mon avis, c'est mal vécu aujourd'hui.
Et oui, voilà, c'est le côté un peu, ouais, le parallèle de l'informatique, des réseaux sociaux, qui, il est plus facile de mettre un like ou d'aller sur Tinder ou autre pour entamer une conversation que d'y aller en vrai. Et ça, c'est dommage parce que de suite, on est passé pour, pour quelqu'un qu'on n'est pas,
on
tout simplement.
Oui, mais on risque de se faire jeter.
Et comme a dit la personne, c'est un screenshot, ça, et puis après on le balance sur les réseaux sociaux, et en vrai mais ça peut être plus violent, je pense. Voilà.
Après, je dirais, il faut aussi essayer de se rendre compte, de la disponibilité éventuelle de la personne. Si vous voyez que la personne, elle est en train de prendre son verre au bar, qu'elle est vraiment dans ses pensées, qu'elle n'a pas du tout envie d'être dérangée, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée de venir la déranger. Vous avez dit quelque chose de très juste aussi. Vous dites, dans la rue, avant d'aborder une personne, on peut déjà voir par un échange de regards s'il y a une possibilité d'avoir une forme de communication. Si la fille est très pressée, qu'elle marche et qu'elle n'a pas du tout envie d'être dérangée, ça ne sert à rien d'y aller non plus. Donc,
on peut aussi rester Arthur Vernon entre gens polis, quelqu'un nous offre un verre, on dit non merci, et puis voilà tout. Et si la personne, si l'homme est normal, il comprendra et ça ira pas plus loin. Je vois pas ce que ça a d'agressif.
Je suis totalement d'accord.
Bref, merci.
Les efforts doivent se faire des deux
Didier.
Côtés.
Excusez-moi Arthur, on fait une pause. Merci Didier en tout cas, et on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, et c'est Anaïs Deban qu'on accueille.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Arthur Vernon, on accueille Anaïs Deban qui nous fait une petite séance culturelle. Anaïs, bonjour.
Oui, bonjour. Bah écoutez, oui, il faut essayer de s'élever un petit peu et pas toujours. Je vous ai parlé des sextos pendant la guerre la semaine dernière, et là j'arrive avec un peu plus de légèreté avec la sexualité chez Shakespeare.
Ah, est-ce que c'est si léger que ça chez lui?
Oh ben ça peut l'être. En tout cas, je vais commencer par un poème qui est à la fois très léger et très beau. ainsi le temps où je vous possède est comme ma cassette à moi. Il est comme la garde-robe où est cachée ma robe d'apparat. Et je réserve pour quelques instants, pour quelque instant spécial, le spécial bonheur de dévoiler de nouveau ces splendeurs emprisonnées. Vous êtes béni, vous dont la perfection donne la béatitude à qui vous a et l'espérance à qui ne vous a plus. Alors, ce poème de Shakespeare était-il ou non adressé à un jeune homme? C'est ce qui est le plus probable. Ce recueil est dédicacé à un certain W.H. et les experts ont retrouvé la trace d'un jeune noble qui avait 10 ans de moins que Shakespeare et avec qui il aurait habité. Alors, est-ce que cet amour était platonique? Ça, on ne le sait pas parce que l'auteur adore brouiller les pistes. Il dira un peu plus tard dans le recueil que cet homme devait naître femme, mais que la mère nature était tombée amoureuse de lui. Alors, effrayée par la possibilité d'un amour lesbien, elle décida à la dernière minute d'en faire un homme. Alors, Brigitte Arthur, il paraît que Shakespeare aurait écrit Le Roi Lear pendant sa quarantaine, au temps de la peste. C'est ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux dès le début du confinement, alors que l'on n'est ou pas des velléités d'écriture. Il est intéressant de voir que les réseaux sociaux proposent tout un tas de choses pour ne pas s'ennuyer, comme s'il fallait absolument que ce temps nous soit profitable concrètement et matériellement. Alors c'est soit culpabilisant quand on n'arrive pas à se lever de son lit, soit très encourageant quand on a plein d'envies créatives. En tout cas moi, bien cela m'a permis de m'intéresser à nouveau à ce grand dramaturge, de le redécouvrir aussi par le biais de ce qui nous amène tous ici, la sexualité. Alors, qui était Shakespeare? Officiellement, c'était un homme né en 1564. Son père tenait une boutique dans une petite ville d'Angleterre. À 18 ans, William Shakespeare quitte la province pour devenir comédien à Londres et se marie à Anne Hathaway, qui, elle, a 26 ans. Ils ont ensemble 3 enfants, mais la famille, c'est pas tellement ce qu'il passionne. Alors, arrivé à Londres, il se fait des amis à la cour et s'initie aux intrigues politiques, ce qui va certainement nourrir ses pièces. Les théâtres ferment à cause de l'épidémie de la peste, et à leur réouverture, William Shakespeare a à peu près 30 ans, il devient un auteur acharné. 37 pièces de théâtre lui sont attribuées, allant de la comédie à la tragédie, en passant par des grands drames historiques. Alors, si Shakespeare a écrit parmi les plus beaux discours amoureux avec sa femme, ça n'avait pas l'air d'être très passionné. Déjà, ils passent 20 ans chacun de leur côté, lui à Londres et elle dans leur ville natale. Et même s'il revient auprès d'elle après s'être retiré de la vie londonienne à sa mort, à 52 ans, son testament nous laisse à penser qu'il ne s'entendait pas à merveille. Il lui aurait légué seulement, je cite, « le moins bon de ses lits ». Donc je ne crois pas qu'on lègue le moins bon de ses lits à une personne que l'on aime. En même temps, rien n'est très binaire chez Shakespeare. On ne sait pas, on ne sait rien et c'est plein de surprises. Et il entretient ça dans ses pièces. Déjà, le théâtre à l'époque ne permet pas aux femmes de monter sur scène. Alors par conséquent, c'était des comédiens hommes qui se déguisaient en femmes. Ils jouaient des scènes d'amour, maquillés à outrance, dans des robes pas possibles. Et c'était assez commun à l'époque. Mais pour aller plus loin dans la confusion, Shakespeare, dans ses pièces, utilisait le travestissement. Un personnage féminin devait par exemple se travestir en homme. Donc c'était des comédiens hommes, déguisés en femmes pour jouer un personnage féminin qui elle-même devait se déguiser en homme pour les besoins de l'histoire. Il jouait constamment sur la fluidité des genres et de l'identité sexuelle et ça donne parfois des scènes très comiques et parfois des scènes d'une étonnante sensualité. Alors Shakespeare, en son temps, on l'a jugé obscène, et puis plus tard, on a cru que c'était une femme qui se cachait en fait derrière l'auteur. On a élaboré des théories disant qu'il était en fait flamand. Encore aujourd'hui, les experts anglais adorent discuter la sexualité et l'identité même de Shakespeare. Il y a plein de suppositions, comme si on ne voulait pas admettre qu'il était pluriel. Tout comme on ne voulait pas admettre à l'époque qu'un simple comédien débarqué de la campagne puisse se révéler être un auteur génial. Ou qu'on ne peut pas admettre, dans une société à l'héritage puritain, que le génie national soit, je cite, « un vulgaire sodomite » selon des critiques datant du 19e siècle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour Shakespeare, le monde entier est un grand théâtre. Et en fait, c'est un peu vrai même pour nous aujourd'hui. On se donne tous des rôles, ils sont mouvants comme la vie. Alors je peux décider d'être un jour une mante religieuse pour séduire cet homme, vivre une passion folle avec une femme un mois, deux mois, deux jours, ou effacer un peu ma féminité quand j'ai besoin de mettre en avant mon côté plus masculin. On le sait tous, on a déjà vécu ça. On est comme ci avec certains et comme ça avec d'autres. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle des hommes qui n'arrivent plus très bien à s'y retrouver, j'espère que j'ai pas trop foutu le bordel, mais mon conseil c'est qu'il faut aussi parfois accepter que tout est mouvant. Et franchement ça peut être très perturbant, je l'accepte, mais ça peut aussi être très très réjouissant. Alors pour ceux qui veulent profiter de ce confinement pour redécouvrir Shakespeare, pleurer ou rire un bon coup, sachez que la Comédie Française diffuse tous les soirs gratuitement deux spectacles de la troupe. Chaque semaine le programme est publié sur leur site internet, de quoi repenser peut-être sa vision de la virilité et pourquoi pas explorer le féminin qui est en vous, messieurs.
N'est-ce pas? Mais il semblerait quand même, Anaïs Debat, enfin, j'ai pas comme ça en tête toutes les pièces de Shakespeare, mais c'est très 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 varié. C'est, je dirais que c'est vraiment un dramaturge qui a su écrire des choses totalement différentes. Quand on lit,
par exemple, complètement,
bien sûr. On reste quand même toujours un peu dans le même genre de choses, mais chez Shakespeare,
c'est dans les 37 pièces, il y a des comédies pures et simples, il y a des fresques historiques incroyablement documentées, et il y a des grandes tragédies, des grandes histoires d'amour qui finissent mal, et tout ça avec brio.
Mais il me semble comme ça, mais je ne suis pas une experte de Shakespeare, que quelque part les amours sont quand même toujours très contrariés.
Je pense que c'est le propre de la fiction et de l'imaginaire. Il faut que les amours soient contrariés pour qu'on puisse en dégager ou le rire ou les larmes, j'imagine.
Qu'est-ce que vous pensez, Arthur Vernon, de sa façon de décrire les relations hommes-femmes de Shakespeare?
Alors, je vous rejoins sur le fait qu'il a une œuvre absolument très diversifiée, et il est considéré vraiment comme l'un des plus grands dramaturges aujourd'hui. Donc l'ambiguïté sexuelle qu'Anaïs mentionne, je la partage également, et c'est très intéressant, c'est très précurseur évidemment pour l'époque d'avoir abordé ces sujets de cette façon-là. Mais je retiens également de la chronique une petite touche d'optimisme en cette période. Si à la fin de ce confinement on peut avoir une œuvre majeure comme le Roi Lear, parce que quelqu'un se sera décidé à prendre la plume du fait de son oisiveté, je trouve qu'on y aura gagné culturellement au moins quelque chose qui peut-être pourra permettre de compenser cette dure période.
Espérons, après tout est possible. Merci beaucoup en tout cas, Anaïs Debat.
Merci à vous, bonne
Arthur
émission.
Vernon. Au revoir. Merci Anaïs. C'est Roland qui va tester son quotient sexuel, Arthur Vernon. Et bonjour Roland.
Bonjour Brigitte.
Alors Roland, vous écoutez bien, on va commencer par une question assez simple, il me semble, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Quelle est la différence entre plaisir, jouissance et orgasme?
Plaisir, jouissance et orgasme. Le plaisir, le plaisir peut être de différentes façons. Ça peut être un plaisir érotique, un plaisir sexuel, un plaisir, le plaisir de la nourriture par exemple, l'orgasme, c'est une sorte de jouissance sexuelle qui peut être par pénétration, par le toucher. Et la jouissance, c'est un terme qui est plus ou moins similaire à deux autres, mais on peut aux deux autres, mais on peut jouir de plusieurs choses également comme le plaisir de la vie, le plaisir.
Mais on peut aussi avoir un orgasme gastronomique, hein. On peut dire ça. C'est pas faux. Non, je vous ai demandé quelle était la différence entre ces trois mots. Là, vous me donnez la définition.
Oui. Alors la différence. Pas évident là. Je vois pas trop.
Si vous la connaissez, vous connaissez la réponse, c'est parce que vous plaisir, jouissance, orgasme.
Plaisir, jouissance, orgasme.
Je les cite exprès dans cet ordre.
D'accord.
Plaisir,
jouissance, la différence peut-être au début, ce sont des étapes. Au début, on accède au plaisir.
Voilà.
Et puis après, l'orgasme et la jouissance.
En principe, on met plutôt la jouissance avant l'orgasme.
Oui, d'accord.
Le plaisir, c'est quelque chose d'agréable. La jouissance, c'est déjà quelque chose qui nous emporte. Hein, et l'orgasme, c'est le point extrême de la jouissance.
Voilà.
Donc, c'est crescendo, si vous voulez.
Oui, c'est vrai.
C'est une réponse.
D'accord. J'avais pas vu sous ce sens-là, mais oui, effectivement, c'est ça. Ça suit des étapes logiques.
Voilà. Mais vous avez donné la bonne réponse, hein, y a pas de problème. Vous êtes d'accord, Arthur, hein, il a donné la bonne réponse.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, c'était une variation d'intensité de l'un à l'autre. Et je pense que les définitions qui étaient données déjà montraient que Roland avait très bien compris.
Roland savait de quoi il parle.
Exactement.
Voilà, il savait de quoi on parle. Deuxième question, quelle est la matière qui est particulièrement utilisée dans les relations SM, donc sadomasochistes, et qui remplace le cuir?
Alors, j'aurais envie de dire le latex.
Eh bien, dites-le.
Le latex.
Le latex, parfait. Deuxième excellente réponse. Troisième réponse, et là peut-être que Arthur pourra vous aider un peu, à quel sein, S-A-I-N-T, hein, non pas les seins des femmes, doit-on ce parallèle entre le péché originel et la sexualité? C'est un saint qui a parlé du péché de chair.
Si je ne m'abuse, je pense que vous faites référence à une personne qu'on appellerait l'un des pères de l'Église. Je ne sais pas si ça va aider.
Oui.
L'un des pères de l'Église.
Qui a écrit des livres sur le sujet.
Alors, j'ai fait mon catéchisme.
C'était d'abord un libertin, ou en tout cas quelqu'un de très, très porté sur le sexe, et qui tout d'un coup a basculé de l'autre côté, qui s'est racheté conscience.
Parce
que je suis sûre qu'Arthur Vernon va pouvoir nous en dire beaucoup de choses sur ce fameux saint.
Alors,
c'est
là,
impossible.
Vous me posez une petite colle parce que je vous avoue que je pense à plein de réponses possibles. Le Sade, peut-être le Marquis de Sade, mais c'est pas le Marquis de Sade.
Non, mais c'était pas un saint.
J'aurais bien aimé, ça aurait été très drôle.
Cupidon, c'est pas.
On va commencer par la première syllabe.
Saint-Augustin, peut-être ?
Eh ben voilà, non. On y arrive.
Voilà.
Bravo, Roland. Vous avez trouvé les trois réponses.
Ouais,
bon. Oui, ça vous dit quelque chose quand même pour que vous ayez trouvé
Saint-Augustin. Saint-Augustin,
alors Arthur,
c'est
important parce qu'il a. Il a quand même un vécu très intéressant, Arthur Vernon. Je vous laisse, je suis sûre que vous avez envie de nous en parler.
Oui, effectivement, parce que fut un temps où je m'étais vraiment posé la question de savoir qui avait pu distiller dans notre société cette idée que la sexualité était quelque chose de mal. Et donc, en faisant des recherches, l'une des toutes premières personnes qui a pu effectivement distiller cette idée, c'est Saint-Augustin. Et je ne suis pas le seul à avoir trouvé, hein, Michel Onfray a écrit un livre vraiment très documenté sur le sujet, hein. En gros, vous avez Saint-Augustin et Saint-Pierre. Et c'est vrai que la particularité de Saint-Augustin, outre qu'il a vraiment été l'un des premiers à écrire que la sexualité était très mal, c'est qu'il a d'abord été, comme vous l'avez dit, Brigitte, un libertin, et ensuite il y a une espèce de repentir, où il se dit « Ah, en fait, non, j'ai vécu une vie affreuse, c'était très mal, en fait, je n'aurais jamais dû vivre de cette façon-là. » Et donc, après avoir très bien vécu, ce monsieur a donné la morale, et il est mort comme ça, en ayant écrit quelques livres que personne n'avait lus, sauf que ses ouvrages ensuite ont été lus par le Vatican, enfin en tout cas par les papes de l'époque, et tout le monde s'est dit mais c'est quand même très intéressant cette pensée. Et une fois qu'il était mort, en fait, il est devenu, on va dire, une véritable star dans l'Église, puisque ses écrits sont devenus vraiment une doctrine. Et c'est lui donc qui a fait passer ce message que la sexualité était quelque chose qui devait être exclusivement réservé à la reproduction et jamais au plaisir. Et il fait donc partie de ces personnes qui ont eu des effets désastreux, vraiment désastreux, sur l'image de la sexualité encore aujourd'hui en Occident. Et dans une de mes précédentes pièces de théâtre, Rêverie d'une jeune fille amoureuse, je lui avais consacré une petite scène où il se faisait, allez, on va dire, sodomiser sur scène pour avoir raconté de telles bêtises. Il va y faire une petite revanche. Voilà, c'était un peu une métaphore, mais il fallait quand même marquer le coup, parce que ce monsieur a évidemment fait des choses absolument affreuses qui auront eu des conséquences dramatiques sur la sexualité de millions et de millions d'individus dans l'histoire. Et il ne le saura même pas, puisqu'il était mort, de toute façon. C'est vraiment, vraiment.
Mais il le sait, puisqu'il est là, et puisque c'est un saint, il est là-haut, il nous écoute, Arthur Vernon.
Oui, moi je pense qu'il aura juste perdu sa vie.
Roland, en tout cas, bravo, parce que vous avez bien répondu. Vous méritez Merci. Largement votre quotient sexuel. Merci.
Merci.
Merci à vous surtout. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Charlotte. C'est bien que les femmes témoignent aussi, qu'elles nous disent ce qu'elles pensent de la misère sexuelle des hommes. On se retrouve tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Arthur Vernon, aujourd'hui on évoque la difficulté des hommes aujourd'hui à se positionner justement en tant qu'hommes, leur misère sexuelle également. Arthur Vernon, c'est important aussi d'avoir l'avis des femmes et c'est Charlotte qui nous a rejoint. Bonjour Charlotte.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Ben écoutez, merci déjà bonjour de m'accueillir. Et puis, voilà, moi ça me pose plusieurs... Enfin, la misère sexuelle masculine, voilà, je l'ai constatée quelques fois et je... Bon, voilà, j'étais étonnée, à mon grand étonnement. Après, je dirais qu'une... Alors, on peut dire que s'il y a une misère masculine, c'est peut-être qu'il y a moins de femmes disponibles. Alors, je ne sais pas, au niveau des chiffres, est-ce qu'il y a des femmes qui se plaignent d'une misère sexuelle ou pas? Ou est-ce que quand on est femme, c'est très facile de trouver un partenaire?
Alors, donc, ça dépend de son âge. Je vais intervenir dessus. Oui, je pense oui, en tout cas que globalement, les femmes, et je dirais presque quel que soit leur physique, en fait, peuvent globalement facilement trouver un partenaire. Et ça, on a eu beaucoup d'études sur le sujet.
Mais ça dépend de l'âge, hein, Arthur. Les femmes
oui, après,
qui
ça
ont,
dépend
qui ont dépassé oui, 50 ans, elles ont beaucoup plus de mal à trouver un partenaire que les hommes.
Hein. Oui, après, ça dépend aussi surtout du niveau d'exigence de la femme par rapport au partenaire. Là je dirais peut-être plus facilement, en tout cas, dans tous les cas, on va dire un partenaire sexuel. Après, je ne parle pas forcément du grand amour, la personne avec qui on va vivre, mais trouver un partenaire sexuel est globalement assez simple pour une femme. Trouver un partenaire sexuel ne veut pas dire avoir du plaisir.
C'est vrai.
Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y ait ce compte à jouer où effectivement il y a encore des problèmes peut-être un peu de connaissances ou de compétences sur la sexualité féminine et comment les femmes peuvent retirer du plaisir de la sexualité. Et cela vient à la fois des hommes qui ne maîtrisent pas le sujet, mais parfois aussi des femmes qui doivent aussi faire parfois un peu l'effort de connaître leur fonctionnement et puis d'oser en parler avec leurs compagnons. Donc là, il y a un petit
Arthur
problème.
Mais Arthur Vernon, il y a autre chose qu'il faut aussi signaler, c'est que beaucoup, beaucoup plus de femmes que d'hommes font l'impasse à un moment donné sur leur sexualité. Et donc, ça ne les intéresse plus de toute façon d'avoir des relations sexuelles.
Et c'est un peu lié à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que si les relations sexuelles se passent de façon peu satisfaisante, le circuit de la récompense qu'on trouve dans le cerveau humain ne se met pas en jeu, puisque le circuit de la récompense, et s'il y a quelque chose qui est très agréable, j'ai envie de le reproduire. Mais s'il se trouve que l'expérience sexuelle n'est pas très agréable, la femme forcément n'aura pas trop envie de le reproduire.
Oui, sauf que là, vous mettez ça sur la faute des hommes. Moi, je pense que la femme est d'abord responsable de son plaisir ou de son non-plaisir.
Oui, j'ai dit que c'était pour les deux. Je pense que les deux ont un rôle à jouer dans cette histoire. Donc il n'y a pas que l'homme, mais l'homme aussi, parce que l'homme doit d'abord être attentif au plaisir de sa partenaire, et puis surtout l'écouter. Et pour qu'il soit pour l'écouter, il faut que la femme ose s'exprimer. Donc on a effectivement les deux pendants, et idéalement que la femme connaisse son corps aussi pour savoir quelle est la façon pour elle d'avoir du plaisir. La sexualité, c'est vrai qu'il n'y a pas de cours de sexualité, c'est certainement dommageable, ça doit un petit peu s'apprendre sur le tas avec de l'expérience. Dans la réalité, il y a quand même pas mal de choses à connaître en matière de sexualité pour qu'on puisse partager du plaisir. Et autre chose qui est très important et que beaucoup de gens peut-être ignorent, c'est que la sexualité est extrêmement différente d'un individu à l'autre. Elle est peut-être plus semblable et encore d'un homme à l'autre, mais elle est encore plus différente d'une femme à l'autre. Donc forcément, il y a une période d'écoute, de découverte, de façon à aboutir à un plaisir qui soit mutuel et satisfaisant pour tout le monde.
Charlotte, qu'est-ce que vous dites ?
Oui, non. Je vous posais cette question parce que selon l'éducation des personnes, si vous voulez, si vous êtes une femme qui, d'un certain âge, qui allait vers les hommes, quelquefois on peut vous prendre. Enfin, c'est compliqué. Moi, je viens d'une famille, c'était que des femmes. Ma grand-mère était divorcée, ma mère a divorcé. Donc, je dirais qu'à l'âge de 10 ans, j'étais quasi autonome. C'est presque moi qui m'occupais de ma mère. Donc, si vous voulez, j'ai appris à
être autonome. Oui.
Voilà, de faire ce que je voulais. Sauf que je pense que les hommes ont très peur des femmes qui sont trop autonomes, qui sont... Alors, ce que je voudrais passer un petit message juste pour les hommes qui éventuellement n'oseraient pas. Sachez qu'une femme qui se bat, qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui se débrouille, qui essaye de... C'est pas parce qu'elle sait démonter une roue et planter un clou qu'elle n'a pas besoin d'une épaule et qu'elle n'a pas besoin de tendresse. Les hommes, mais enfin, je ne sais pas si les hommes mélangent ce genre de choses, mais je voudrais leur dire que c'est pas parce que quelqu'un paraît sûr de lui et qu'une femme paraît sûre d'elle qu'elle a pas un cœur en chiffon.
Oui, mais je crois Charlotte qu'il y a quelque chose qui est important à signaler. Je pense que depuis la nuit des temps, les hommes ont peur du féminin, tout simplement parce qu'ils sont issus d'une femme et leur mère restera. De toute façon quelque chose de tout puissant, hein. Un petit garçon face à sa maman, il est tout petit et le féminin est tout puissant. Et ce qui leur permet à un moment donné d'avoir l'impression d'avoir repris un peu de pouvoir et de puissance, c'est le fait qu'ils puissent justement secourir une femme, l'aider. Alors changer la roue d'une voiture pour une, c'est venir en aide à une femme et montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Moi je dis souvent, les hommes, il suffit de les admirer et de leur demander de nous rendre des services et ça y est, ils retrouvent leur virilité. Donc si vous êtes là à montrer que vous savez tout faire, forcément vous réactivez leur peur inconsciente, hein, leur peur archaïque.
Oui, non, mais moi, donc je suis prête à demander. Hein. Personnellement, si j'ai quelqu'un qui vient me propose gentiment de me monter ma roue, je vais pas dire non. Je vous assure que me mettre les mains dans le cambouis, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc,
vous l'avez bien... Vous voyez, vous devez certainement montrer à quel point vous êtes autonome. Et en effet, ils trouvent pas leur place.
Oui, ça fait
donc
peur.
Il faut être un petit peu... Il faut jouer un peu le rôle de la femme qui apprécie d'avoir de l'aide. Et à partir de ce moment-là, ils viendront plus vers vous.
Non, mais suite à ce sujet, j'en ai discuté avec une amie. Et elle m'a dit, moi aussi, j'aimerais bien être de ces femmes qui ont besoin, qui ont toujours, qui sollicitent. Mais je sais pas, si on ne sait pas faire, c'est compliqué. Enfin, moi, personnellement, j'essaye. Hein, mais je ne sais pas. J'ai toujours peur, enfin je sais pas, j'en sais rien. Le fait d'avoir
dirigé ma vie. Vous avez dit j'ai toujours peur et vous n'avez pas continué voilà parce que. Soit,
ben, j'en sais rien. C'est très problématique chez moi parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Par contre, j'ai eu deux maris, mais je pense que c'est pas par hasard. Si ils se sont complètement reposés sur moi, y compris pour le bricolage et des choses comme ça. Donc, je pense que c'est pas par hasard que je les ai choisis. Mais honnêtement, je préférerais trouver quelqu'un qui partage avec moi toutes ces choses-là. Et mais j'avais des amis qui savaient faire. Je les voyais faire. Je disais, mais oh, qu'est-ce qu'elle fait, c'est bien. Je sais pas faire. J'y arrive pas.
Et l'ami il y a peut-être une peur, Charlotte. Ouais. Il y a peut-être tout simplement une peur de vous abandonner. Hein. Il y a peut-être une peur de parce que au fond, dans ce que vous racontez, il y a quelque chose qui a peut-être un peu à voir avec le contrôle. On contrôle tout dans sa vie. Comme ça, on se met pas en danger. Hein. C'est peut-être quelque chose tout bêtement. C'est une proposition que je vous propose. C'est à vous d'y réfléchir, évidemment. Allez, on va laisser la place aux infos. Arthur Vernon, je vous donne quand même la devinette du jour. Je l'ai pas choisi par hasard. Quel est le mot qui revient le plus chez une femme juste après un rapport sexuel? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. Merci en tout cas, Charlotte, de votre témoignage. Et puis on continue bien sûr après les infos. Vous aussi venez donner votre avis au 0826 300 300. À tout de suite.
14h 16h Brigitte Lahaye Sud Radio.
On évoque aujourd'hui les hommes et peut-être leur perte de virilité, en tout cas leur difficulté à être épanouis dans leur sexualité. C'est Arthur Vernon qui est avec nous. Arthur Vernon a beaucoup étudié, a beaucoup travaillé justement sur les questions de sexualité, sur la liberté sexuelle. Bon, je l'avais d'ailleurs connu grâce à ce livre, La vie, l'amour, le sexe, qui était aux éditions Tabou, un livre tout à fait intéressant. Arthur Vernon, je crois que vous voulez revenir sur le témoignage de Charlotte, mais d'abord je vais vous demander si vous connaissez la réponse à ma devinette. Qu'est-ce que disent disent les femmes, quel est le mot qui revient le plus chez une femme juste après un rapport sexuel ?
Écoutez, je n'ai pas trouvé la réponse à votre question, donc vous allez pouvoir...
Oh, c'est facile. Elles répondent, les trois quarts répondent déjà.
Ah ouais. Ben voilà, on en revient toujours sur le sujet, sur le fait que il y a de la déception. Voilà, c'est une devinette avec une toile de fond réelle hein, qui reprend exactement notre débat de ce jour.
Je l'avais choisi exprès pour ce thème d'aujourd'hui. Alors Arthur Vernon, je crois que vous vouliez revenir sur le témoignage de Charlotte.
Oui, et peut-être être un tout petit peu moins peut-être pessimiste que ce que vous aviez indiqué sur le fait que les hommes seraient vraiment, je dirais presque par nature, incapables comme ça d'apprécier des femmes assez fortes, voilà, et qu'ils veulent absolument être des sauveurs. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de construction culturelle, donc ça peut prendre du temps pour que ça évolue, mais je pense que dans l'absolu, une femme n'a pas besoin, entre guillemets, d'être sauvée. Ou de, encore pire, de faire semblant qu'elle doit être sauvée pour attirer l'attention d'un homme. Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est un message qui s'adresse également aux hommes, peut-être en premier lieu, pour dire mais des femmes, on va dire, entre guillemets, fortes, c'est également formidable, même dans la vie de tous les jours. Il se trouve, vous avez abordé My Sweet Fantasy, la société qui réalise les fantasmes, il se trouve que j'ai créé cette société avec Flore Chéry, qui est également écrivaine par ailleurs, et qui a écrit un livre... oser draguer un mec. Moi, je trouve que c'est un excellent test pour une femme. Si elle drague un mec et que le mec est réceptif à cette drague, bah, c'est forcément quelqu'un avec qui ça va bien se passer, puisque justement, il ne rentre pas dans ce jeu, hein, j'ai besoin de jouer le rôle du sauveur. Donc c'est peut-être un conseil aussi pour Charlotte, qu'elle prenne les devants, qu'elle y aille, et puis elle verra bien si la réaction, et si elle a une réaction positive, et je suis sûr que les hommes apprécient en fait être dragués aussi, et bah, elle se dira que ce sera quelqu'un qui potentiellement sera un partenaire tout à fait intéressant pour elle. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut vivre une cohabitation assez saine entre hommes et femmes sans qu'il y ait des jeux de rôle à avoir entre celui qui est le sauveur et la personne qui est la sauvée, et je pense qu'il peut y avoir une vraie entraide avec des compétences diverses qu'on peut mixer dans le cadre d'une relation, que ce soit une relation purement sexuelle ou même une relation de couple sur le long terme.
Alors, je crois que, en effet, tout est possible, mais que dans l'absolu, j'affirme et je signe ce que j'ai dit tout à l'heure à Charlotte. Mais c'est là aussi où on a des points de divergence, Arthur, et c'est bien aussi que ce soit qu'on ait des opinions différentes. Ça permet à chacun de trouver son opinion. Après tout, les vérités sont multiples, surtout quand on parle de sexe et d'amour entre hommes et femmes. Alors, Arthur Vernon, elle est webcam girl. Elle est avec nous et je pense que son témoignage va certainement vous intéresser. Bonjour Elekaterina, c'est un pseudonyme, semble-t-il.
Bonjour. Excusez-moi pour la difficulté, effectivement, du pseudonyme.
Elekaterina, non, ça va.
C'est ça, Elekaterina.
Je vais y arriver.
Bon. Donc, merci. Bonjour Brigitte. Bonjour.
Je vous en prie.
Bonjour Arthur. Effectivement, je suis ravie de participer aujourd'hui à ce thème pour lequel moi je vous ai écouté attentivement depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que certaines choses que vous avez dites reflètent effectivement plein de choses que je vis au quotidien dans justement mon métier de webcam girl. Et c'est vrai que au fond de moi, j'ai un peu... comment dire, pas une révolte, mais il y a quelque chose, une espèce de petite colère que j'ai au fond de moi par rapport, je trouve qu'il y a une espèce de déclin de la liberté sexuelle, ce que je ressens profondément. Et du coup, bon, moi, forcément, je suis face à beaucoup d'hommes et ça rentre totalement dans ce que vous dites, cette souffrance, alors peut-être, voilà, on peut la qualifier de misère sexuelle, mais cette souffrance de certains hommes par rapport au regard qui devient de plus en plus lourd de la société. Voilà, excusez-moi, je vous ai un peu...
j'ai tout de suite. Vous voulez dire que les hommes qui viennent vous regarder, donc, hein, puisque au fond, oui, vous faites des shows par
webcam, tout à fait, voilà.
Et ces hommes qui viennent vous voir, vous les sentez seuls, désespérés, sans partenaire?
Pas tous, mais ça arrive, parce que, si vous voulez, moi, donc, je propose des shows soit classiques, coquins, soit fétichiste ou dominateur. Et là, dans cette classification, dès qu'on sort de la sexualité, entre parenthèses classique, oui, il y a une espèce de parfois mal-être, pas pour tout le monde, mais pour, on va dire, 90%, d'hommes qui ont besoin d'être rassurés par rapport à leur fantasmatique, parce que ça peut être, comment dire, ils ont du mal à en parler. Le jugement de la société est très très lourd vis-à-vis de la soumission, de fétichisme pied, de certains fantasmes, par exemple cuckolding, pour ceux qui aiment être humiliés et que leur femme les trompe, enfin, des fantasmes un peu différents, on va dire. Et par rapport à ça, oui, effectivement, c'est des choses dont ils ne peuvent pas en parler. Autour d'eux, c'est vraiment incompris, c'est vraiment très mal jugé.
Et là moi je suis pas complètement d'accord avec vous, les Katharina, parce que ces fantasmes là qui sont déjà un petit peu plus marginaux, on va dire, hein, parce que j'aime pas le mot extrême, il y a 20 ans c'était même pas la peine d'en parler. Donc je pense pas qu'on ait régressé par rapport à ces fantasmes là. Vous avez l'air de dire que on en parlait mieux avant.
C'est pas ça, c'est que tout ce qui est orgie, gangbang, les choses qui sont, enfin pour moi, dans mon sens, hein, plus, enfin pas extrême, mais sont acceptées, c'est devenu un rituel, c'est devenu classique. Par contre, ces fantasmes-là sont mal vus, voilà, c'est ça, c'est sont jugés. C'est ça que je veux dire. C'est que on conçoit que par exemple les gens fassent des orgies, que les gens. Mais par contre, s'il y a des fantasmes qui sont plus psychologiques, c'est différent.
Ah oui, mais le fantasme de soumission d'un homme, donc vous êtes un peu dominatrice, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Avec eux, c'est quelque chose qui ne correspond pas. Toujours pas à l'image qu'on a d'un homme. C'est l'homme qui domine, c'est pas lui qui doit être soumis. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je sais bien que c'est le problème. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais c'est quand même. Arthur Vernon, vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit, avec ce qu'on dit? Vous êtes de quel côté?
Alors, non, mais je pense que. Déjà, c'est très bien qu'on puisse en parler de ce sujet. Je pense, un peu comme vous, Brigitte, que sur les dernières années, il y a quand même une plus grande démocratisation et on peut plus facilement parler de ce sujet. Je donne un titre d'exemple. C'est vrai qu'actuellement, l'activité de My Sweet Fantasy est à l'arrêt puisque pour des raisons de confinement. Mais sinon, nous sommes confrontés très régulièrement à des demandes d'hommes qui sont exactement ce que vous avez également, c'est-à-dire sur des besoins très particuliers, de soumission ou de fétichisme. Bon, ces hommes, en tout cas, n'ont pas de souci à venir nous parler. Donc je pense que le fait qu'ils puissent déjà nous parler, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que comme ils ont, on va dire, un fétichisme particulier, ils ont plus de mal à trouver des partenaires dans la vie de tous les jours avec qui partager ce fétichisme. Et c'est là que votre travail est formidable. Mmh. Ce que vous faites est formidable. Et je pense que vous avez un rôle majeur à jouer justement pour aider tous ces hommes qui sont dans une situation difficile. Que leur misère sexuelle soit, on va dire, très traditionnelle ou qu'elle soit liée à des besoins plus particuliers comme ceux que vous avez, évoqués.
Donc, j'espère qu'on peut les aider à s'accepter, parce que moi ce qui me fait de la peine en fait, c'est que les hommes aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'ils ont la vision des femmes les femmes sont très dures, les jugent très durement, et même avec nous, hein, même nous entre femmes, par exemple, je sais que moi, en tant que webcam girl, les plus dures, celles qui vont juger, ça va être les femmes qui vont juger mon métier. Ça va pas forcément être les hommes. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que la femme a un jugement terrible, vraiment sur son homme. Et j'ai beaucoup d'hommes qui vénèrent leur femme et qui me disent « Mais j'aimerais tellement pouvoir oser lui dire que je suis fétichiste des pieds. » Mais il y a vraiment une barrière avec ça. Et c'est vrai que nous, on sert aussi à les rassurer, à dire « Non, non, tu es normale. » Mais c'est vrai que moi j'aimerais que la société ouvre les yeux et se dise bon, enfin c'est pas des perversions tout ça, c'est juste des envies finalement, on adhère pas, mais c'est pas si grave, enfin je regrette un peu.
Vous travaillez depuis combien de temps en tant que webcam
girl? C'est récent, ça fait un an moi. Un an.
Oui, donc vous êtes. C'est normal que vous ayez encore un peu d'idéalisme et l'envie que ces fantasmes soient reconnus et soient complètement banalisés. Mais je crois qu'il faut quand même, les Katharina, il faut quand même être assez réservé. C'est bien sûr qu'il n'y a pas à juger ces fantasmes-là, mais on n'est quand même pas dans une sexualité totalement traditionnelle, normale. Donc il y aura toujours, vous savez, il y aura toujours un jugement sur la sexualité des autres, parce que quelque part, elle peut réveiller des peurs, elle peut réveiller des parts d'ombre. Donc voilà, et de toute façon, ce qu'il y a de certain, et on le voit bien, et je suis certainement bien placée pour en parler, la pire ennemie des femmes, ce sont les autres femmes.
Oui.
Parce que vous permettez des choses qui peut-être pourraient exciter certaines d'entre elles, ou tout simplement certaines d'entre elles considèrent qu'il faut laisser les hommes dans leur misère sexuelle et tant pis pour eux, ou même tant mieux pour eux. Vous voyez,
oui, donc ça je crois qu'il faut que vous en fassiez. Peut-être un peu dans un idéalisme, c'est sûr, ça. Je pense.
C'est bien.
C'est vrai
que
je regrette tellement que la femme, on puisse pas être. Je suis déçue de ce manque de liberté et de ce manque d'ouverture d'esprit, parce qu'on a tout à y gagner. C'est vrai que, on a tout à y gagner à être nous-mêmes sexuellement, à se découvrir. Et ce qui est beau, par contre, c'est qu'on s'aperçoit que les choses basiques comme les téléphones roses, les écritures, je pense qu'Arthur Vernon, j'ai vu qu'il en faisait, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Tout ce qui est littérature érotique, tout ça marche beaucoup. Donc les bases sont toujours là. On ne peut pas dire que les gens vont dans le plus en plus extrême.
Non, mais c'est justement d'en parler. Et est-ce que l'émission de Brigitte, à mon avis, y contribue beaucoup, surtout quand il y a un témoignage comme le vôtre, qui fait que tous les auditeurs vont se dire « Ah oui, tiens, en fait, c'est quelque chose de normal. » Et si jamais, comme ça, le conjoint lui en parle, puisque souvent les fétichismes sont statistiquement plus attribués à des hommes qu'à des femmes, bon, voilà, si le conjoint un jour en parle, qu'on ne puisse pas considérer ça comme étant une aberration ou quelque chose d'abject, mais au contraire, quelque chose qui puisse être vécu normalement. Donc il faut en parler davantage, qu'il y ait davantage de paroles et également certainement de culture, d'objets culturels qui traitent de ce sujet sans stigmatiser les personnes qui vivent ça. Et je dirais encore une fois, ce que votre témoignage joue dessus, le fait qu'aujourd'hui, dans ce qu'on fait dans My Sweet Fantasy, on puisse très, très librement le proposer aux gens et qu'ils nous en parlent librement, va dans ce sens également. Et c'est un travail de long terme, mais à poursuivre. Donc ce que vous faites est très bien. Et puis, encore une fois, c'est aussi grâce aux émissions de Brigitte. Le fait d'en parler va permettre de faire que ce sujet ne sera plus un sujet tabou.
En tout cas, en parler, oui, mais pas avec n'importe qui, Katharina. Parlez-en avec nous quand vous voulez. Mais en effet, votre métier, forcément, peut être critiqué par certaines personnes. Donc, il faut que vous soyez discrète, vous avez raison. C'est votre manière à vous de vous protéger. Mais peut-être que dans quelques années, quand vous assumerez mieux, vous pourrez plus facilement l'évoquer, parce qu'en face, les gens qui sont souvent des perles à pudeur ne sont pas les gens les plus courageux dans une société. Donc quand ils sentent qu'en face ils ont quelqu'un qui s'assume complètement, on peut à ce moment-là s'affirmer tel qu'on est. Donc soyez un tout petit peu patiente, assumez-vous, vous verrez, ça ira de mieux en mieux.
Oui, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on a tendance aussi à imaginer que les femmes qui travaillent dans le domaine du sexe font ça un petit peu à cause de problèmes financiers.
Intérêts financiers.
C'est ça. Et on m'a plusieurs fois dit « Mais tu sembles intelligente, t'es mignonne, pourquoi tu fais ça, mon Dieu ?» Et c'est vrai que je voudrais dire qu'on peut aussi le faire par plaisir. Alors, c'est vraiment, pour certaines personnes, c'est inimaginable. Mais je voudrais dire que si y a vraiment des belles choses aussi dans ces métiers. Il faut bien sûr le faire avec envie, avec plaisir. Mais je reçois aussi beaucoup de la part de...
Oui. Oui,
et 98% des
bien.
Gens que je rencontre sont adorables. Voilà.
Oui, vous avez l'impression de faire du bien et c'est ce qui vous fait du bien. Je l'entends bien, mais là encore une fois, on touche un gros tabou. Hein. Bon. Merci en tout cas de votre témoignage, les Katharina.
Oui, vraiment merci pour votre témoignage, parce que vous voyez, aujourd'hui, effectivement, on parlait un peu des féministes, certaines considèrent que ce que vous faites, effectivement, est inimaginable, alors que c'est extrêmement différent de le faire de façon volontaire que de le faire de façon forcée, et que c'est tout à fait quelque chose d'acceptable. Et quand bien même ce ne serait pas un grand plaisir pour vous de le faire, c'est également une façon de gagner sa vie qui doit être tout à fait acceptable pour les filles qui le font et qui décident de le faire même pour de l'argent. Il y a 50 000 façons de gagner de l'argent dans la vie de tous les jours. Bon, bah, si elle considère que c'est une façon qui lui convient de gagner de l'argent, même si c'est pas forcément un plaisir, ça doit le faire. Il n'y a pas de raison. Tous les métiers ne sont pas des métiers plaisir.
Exactement. Merci en tout cas, Elie et Katharina. On se quitte un court instant et on donne la parole à Trinidad qui nous a rejoint.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Arthur Vernon, on accueille maintenant Trinidad. Alors avec Trinidad, je ne sais jamais, parce que là elle va nous parler d'asperges et de poireaux. Alors je ne sais pas si elle nous parle de jouets intimes ou de légumes. Voilà, bon, Trinidad.
C'est une métaphore, j'aime bien vous piéger.
Je vois ça.
Alors déjà, pour se mettre en joie, les messages qui m'ont le plus amusé cette semaine, j'ai acheté 400 paquets de lardons, je vais essayer de reconstituer le cochon. On s'occupe comme on peut, il y en a aussi qui comptent les grammes. Et vous pouvez en trouver plein d'autres sur le compte Instagram, peut-on rire de tout, TOUX, bien sûr. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé ma chronique par une phrase d'Einstein. Cette semaine, j'ai choisi la troisième loi de Newton que j'ai entendue dans le film Interstellar. L'homme ne peut espérer aller quelque part sans abandonner quelque chose derrière lui. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, surtout ceux qui ont du mal avec leur couple et leur
engagement.
Ce qui est clair, c'est que si ça dégénère dans votre couple, vous pourrez toujours divorcer. Par contre, si ça se passe mal avec vos gosses, vous ne pourrez pas les rendre. Ou alors, il faut voir avec qui du taille. Rendre un enfant dès demain, surtout si c'est un crétin qui glande rien depuis le confinement. Le ramener aux enseignants. Enseignants qui pourraient se décomposer en deux mots au fil des jours. Enseignants.
N'empêche que, Trinidad, je suis sûre que les parents, quand les enfants vont retrouver leurs enseignants, sont beaucoup plus indulgents avec les enseignants.
Ça, c'est sûr.
Ils auront compris à quel point c'est difficile.
Si ça se trouve, certains divorceront juste pour refourguer la garde des enfants à l'autre parent, comme dans le film Papa ou Maman qui était sorti il y a quelques années avec Marina Foïs. Et oui, c'est un choc. Les parents qui pensaient avoir pondu des génies réalisent qu'ils ont pondu des abrutis qui glandent. Mai 68, mars 2020, deux mondes, deux époques. Hier, dépavés, aujourd'hui, dépravés. Donne-moi ta main et prends la mienne. On va s'amuser à se contaminer et rien glander pendant des semaines. Mais oui, l'école est finie. Alors, si vous vous retrouvez enfermé avec de grandes asperges, et donc on arrive aux asperges, envoyez-les en ramasser. Les paysans manquent de bras. Ou alors, faites d'une pierre deux coups. C'est l'occasion de faire l'éducation sexuelle de votre ado pubère et de mettre du piment dans votre couple. Accueillez chez vous une prostituée. Parce que nos pauvres prostituées sont les grandes oubliées de ce confinement et en ce moment, elles morflent. Et au niveau sécurité, elles sont au top, elles n'embrassent pas et en matière d'hygiène, elles ont de l'expérience. Parce qu'on pense à tout le monde, mais à part vous que j'ai entendu en parler en première heure, je n'ai pas entendu du tout parler de prostituées ces derniers jours. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ces prostituées qui aimeraient, pour elles c'est très dur, même si c'est pas comme elles aimeraient, elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Elles
n'ont
pas droit au chômage technique,
alors,
je crois pas.
Juste certaines qui sont en auto-entrepreneur, mais les autres non. Voilà, donc on peut dire que le Covid-19, c'est pire que le virus Ebola, c'est le virus aboli. Là où les féministes ont échoué, le corona l'a fait, plus de prostitution, en tout cas dans la rue. Alors, là c'est un petit peu pour vous, un petit cadeau. Caracoveux du corona, on te méfie des filles de joie, on te méfie des filles de joie, on a peur de la gaudrio, oh le para, on s'enferme bouffer des ravios, oh le. Et je rappelle que le pluriel de pute n'est pas député. Donc pour elle, l'équation est simple, pas de clients, pas de pognon. De Paris à Dakar, de Nice à New York, entre hôtels qui ferment et couvre-feu, elle chante « Nous sommes les pauvres putes, dès qu'on nous paye, on s'exécute, on soulage l'homme en rut de ses pulsions, de son scorbut. Mais qu'on soit fille de l'Est, poule de luxe ou du tiers-monde, le coronavirus a mis au chômage nos utérus. On se faisait tous les jours un paquet de clients, mais depuis deux semaines avec le confinement,
On ne voit plus un pénis se dresser à l'horizon. Si le ciel est plus bleu, on n'a plus de pognon. Certaines se retrouvent même à la rue vu que les hôtels ont fermé.
Il y en a quelques-unes qui se sont reconverties en webcam girl, hein, justement.
Voilà. Enfin,
je ne parle pas de les Katharina qu'on vient d'avoir, hein, mais il y en a certaines qui vont un peu comme ça. Sur... Mais je sais que ceux qui dirigent justement ces services ne veulent pas prendre de prostituées parce qu'ils ont peur d'être accusés après de proxénétisme. Donc c'est complexe. Hein.
Alors en Espagne, ça marche très bien, tout ce qui est visuel. Hein. En Catalogne du Sud, la prostitution donc, se déplace sur les sites internet. Après tout, à Perpignan, il paraît que l'évêque Turini célèbre la messe sur YouTube. Extrême onction ou extrême érection, les voies du Seigneur restent impénétrables. C'est une forme comme une autre de télétravail. Vous dites à votre femme, attends chérie, je reviens, je vais écouter la chanson de Cabrel ou de Bruel, ou un mélange des deux, Babrel ou Cruel. Et hop, une petite branlette pour l'homme, un repas pour une prostituée. Et pour info, en 2019, il paraît qu'on comptait 500 000 prostituées dans l'Union européenne. Donc, allez-y, je l'aime à jouir, je l'aime à jouir. Ce sera tout pour moi
bravo
pour aujourd'hui.
Bravo Trinidad. Non, mais c'est bien parce que de manière drôle, vous nous parlez d'un vrai sujet, quoi, qu'on n'entendra pas dans les autres médias, hein,
non.
À mon avis.
Et j'étais surprise parce que quand vous cherchez infidélité, quand vous cherchez couple, etc., on tombe sur 10 000 articles prostituées. Il y a un article du Monde, un article de Dakar, je ne sais pas quoi. Et, enfin, voilà, et après, c'est les associations qui diffusent des choses.
Merci
donc, voilà.
Beaucoup Trinidad. Bon, merci Trinidad. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil.
Brigitte Lay, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors Arthur Vernon, je vais parler du mouvement, vous savez, du mouvement quand on fait l'amour. On a tendance à oublier qu'il y a des mouvements qui sont plus positifs et plus bénéfiques que d'autres. Et c'est important peut-être de faire un petit peu la part des choses. Il ne faut pas bouger n'importe comment en quelque sorte. Hein. Alors déjà, il faudrait rappeler aux femmes que c'est bien aussi qu'elles bougent, que c'est pas, qu'il ne faut pas rester faire l'étoile de mer. Et puis, il faut rappeler aux hommes que ce n'est pas simplement leur sexe qui bouge, mais c'est aussi le bassin. C'est généralement par des mouvements de bassin libres que les hommes font mieux l'amour. Et puis, bien sûr, on peut bouger les bras, on peut bouger tout ce qu'on veut. Hein, mais je vais surtout parler de ce mouvement du bassin, parce que c'est vrai que plus vous allez être dans un mouvement du bassin qui va donc forcément faire bouger la verge, eh bien ce sera plus adapté, si je puis dire, à ce qu'est la sexualité. Alors évidemment, les personnes qui ont par exemple font de la danse ou qui ont un corps assez libre, ça sera plus facile de comprendre ce dont je vais parler. Parce qu'en fait, il faut bouger certes d'avant en arrière, mais il faut bouger également de haut en bas et également en mouvement circulaire. Et c'est ça toute l'astuce. Et il faut bouger évidemment en cadence. Je rappelle toujours que coït, ça veut dire aller ensemble. Et si on n'est pas synchrone, hein, si par exemple il y en a un des deux qui bouge un peu plus fort que l'autre, eh bien c'est moins harmonieux. La sexualité, c'est vraiment une danse. Hein, le pénis est dans le vagin et à partir de ce moment-là, les deux devraient se coordonner parfaitement. Alors pour atteindre l'orgasme, je voudrais rappeler aussi que c'est certes souvent avec un rythme plus rapide, mais il faut faire attention aussi que le rythme doit rester régulier et c'est peut-être moins facile qu'on l'imagine. Les hommes ont tendance à penser qu'à un moment donné, il faut accélérer. Sauf qu'à partir de ce moment-là, ils sont peut-être plus tout à fait coordonnés et à ce moment-là, les sensations de chacun sont peut-être un petit peu différentes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Arthur Vernon, à ce Love Conseil ?
Je vous rejoins évidemment complètement et je pense que ça peut passer par, pour l'homme, pour être très attentif par rapport aux réactions de sa partenaire, qu'il soit des réactions visuelles ou auditives évidemment, et puis si jamais il y a un souci avec la partenaire, si elle trouve qu'il y a un petit souci de rythme, ne pas hésiter à le manifester de façon à conserver ce caractère synchrone que vous avez très justement rappelé.
Voilà, mais on peut aussi céder avec les mains, hein, quand vous tenez bien les hanches, vous vous tenez bien par les hanches l'un comme l'autre, ça vous aidera aussi à avoir ce rythme coordonné. Et puis il y a aussi la respiration, hein, de respirer ensemble et d'inspirer et d'expirer ensemble, ça permet aussi d'avoir un meilleur rythme. Et ça c'est vraiment un exercice qu'on peut conseiller, vous avez le temps en ce moment de faire des exercices, hein, puisque vous êtes confinés en couple, apprenez simplement à faire l'amour sans spécialement chercher l'orgasme, mais à bouger de manière un peu plus lente ensemble. Et vous allez voir que vous allez gagner par la suite en sensualité, en sexualité et donc en jouissance. Et c'est quand même ça l'essentiel. Ça, c'est quand même. Et donc, inspirer et expirer ensemble. C'est pas si simple hein, au départ, vous verrez. Mais c'est vachement intéressant. Alors, maintenant, on va tester un jouet. Là, c'est plus un poireau ou une asperge, comme le disait Trinidad. C'est un vrai jouet. Et c'est un plug. Et c'est Eric qui a reçu pour nous. Bonjour, Eric.
Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Ça va très bien même. Alors, vous avez testé ce plug anal vibrant qui est tout à fait violet, mais alors un beau violet bien, bien punchy, toujours de l'enseigne Love and Vibes. Vous voulez le décrire peut-être, Eric?
Oui, je vais le décrire. C'est la première fois que je faisais ça. Donc la première fois, ça a été un peu compliqué. J'étais un peu stressé pour le faire. Mais la deuxième fois, ça s'est très très bien passé parce que je me suis détendu et tout et que ça se passait bien. Et après, c'est vrai que c'est un jouet qui est efficace.
Donc vous l'avez testé sur vous, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Mmh. Donc voilà. D'accord. Et donc ça c'est, j'ai trouvé très très bien. Et que même ma partenaire s'en est aussi servie aussi parce que c'est un jeu de couple, donc pour elle ça pérennise tout, mais sinon moi ça m'excitait beaucoup.
D'accord. Bon. Alors il est vibrant, hein, mais alors ce qui est bizarre c'est, je sais pas, il est vibrant sur tout le plug.
Oui, il est vibrant tout le long de l'acte, c'est toujours vibrant.
D'accord. Avec plusieurs vibrations. Je précise toujours hein, que le plug, c'est vraiment un jouet spécial pour une pénétration anale et qu'il ne faut pas s'amuser à se pénétrer autrement qu'avec des plugs dans l'anus, parce que sinon on risque en effet d'être obligé d'aller aux urgences et en ce moment, il vaut mieux pas y aller. Écoutez, tout va bien. C'est, visiblement, vous l'avez apprécié. Quelle note vous lui donnez?
Moi, je lui mets 5 sur 10.
5 sur 10, d'accord.
Oui. Bon.
Et sinon, vous pouvez aussi le commander sur l'enseigne Love and Vibes. On va faire une petite pause, on se retrouve tout de suite avec Arthur Hern, qui est toujours avec nous, bien sûr.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Toujours avec Arthur Vermont, on évoque donc la misère sexuelle des hommes, mais on va aussi, je ne sais pas si elle est avec nous, par la porte d'Aube.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi, je n'avais pas eu l'info si vous étiez en ligne avec nous. On va évoquer ce livre que vous avez sorti il y a quelque temps aux éditions de l'Homme, « Après la maltraitance, se libérer des blessures de l'enfance ». Alors c'est quelque chose malheureusement un petit peu actuel aujourd'hui en période de confinement. Il est certain qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent subir un peu plus de maltraitance et c'est bien dommage. Vous évoquez déjà dans ce livre, et je crois que c'est vraiment important, à quel point ça détruit beaucoup de gens, que pratiquement je sais pas, c'est 2 enfants par jour qui subissent, enfin je ne sais plus exactement ce que, mais en tout cas 25% d'adultes auraient subi la violence durant l'enfance, c'est ça?
C'est ça, effectivement. Il y a différentes études hein, qui convergent sur ce chiffre. Alors parfois c'est 22, 25%. En tout cas, c'est un chiffre vraiment très élevé de personnes qui subissent des violences, alors que ce soit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Et effectivement, comme vous le disiez, en cette période particulière de coronavirus et de confinement, bah, ça peut être encore plus le cas. Et puis en plus, bah, malheureusement, les enfants maltraités, ils n'ont plus cette bouffée d'oxygène qu'ils peuvent trouver à l'extérieur. Hein, ils se retrouvent un petit peu seuls dans le huis clos familial avec leur bourreau.
Oui, on sait bien sûr hein, que le confinement va certainement malheureusement augmenter la violence. Alors il y a différents types de violences que vous décrivez dans ce livre. Hein. Il y a bien sûr la violence psychologique, la violence physique. Oui. Et puis la pire de toutes, c'est évidemment la violence sexuelle.
Oui. C'est vrai que c'est la pire de toutes parce que en termes de peur, d'effroi, c'est l'équivalent de la torture en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement tétanisant. Hein. Les victimes de violences sexuelles, elles se décrivent hein, par rapport à ces abus-là comme étant complètement tétanisées. Et donc ça génère des traumatismes tellement importants que ça peut même générer une dissociation, c'est-à-dire que la personne se retrouve comme en dehors de la réalité ou encore coupée de son corps. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle des éléments dissociatifs. Et donc il y a tout un travail qui est nécessaire hein, quand c'est le cas pour justement guérir, traiter tous ces traumatismes.
Et c'est là où votre livre est intéressant parce que vous décrivez d'abord évidemment toute l'altrance et ensuite vous donnez toutes les solutions pour s'en sortir. Et il y a une chose sur laquelle je voulais revenir parce que je trouve que vous donnez l'explication vraiment bien, c'est la honte, la culpabilité qui souvent habite les victimes et qui donc leur empêche pendant un certain temps de consulter ou de parler. Et vous expliquez que finalement, c'est presque une manière de protéger leurs parents.
Tout à fait. En fait, les enfants sont quand même dans une forme de dépendance à l'égard de leurs parents à tout niveau, une dépendance affective, matérielle, etc., qui fait que, eh bien, pour un enfant, c'est plus important de ressentir que son parent est bon que de ressentir que lui-même est bon. Donc, un enfant qui subit des sévices de la part de son parent ne peut pas s'autoriser à critiquer son parent. Psychiquement, c'est impossible. Donc, du coup, l'enfant se dit, puisque je subis tout ça, c'est moi qui suis un monstre, c'est moi qui suis mauvais. Et donc, de ce fait-là, l'enfant, en fait, assume la responsabilité et ressent honte et culpabilité. Et parfois, c'est encore renforcé par le fait que certains parents, même, culpabilisent l'enfant en disant, vois ce que tu me fais faire, finalement.
Donc, c'est eux qui sont des mauvais enfants et non pas des parents qui sont de mauvais parents. Et c'est ça qui est... Et je suis d'accord avec vous, Sarah Laporte d'eau, parce que moi, j'entends donc les adultes, évidemment, hein, qui ont subi parfois des choses terribles. Et je remarque qu'ils ont toujours du mal. Enfin, il faut toujours qu'ils excusent un petit peu l'un ou l'autre des parents. Et ça, c'est assez étonnant. Et je crois, vous le dites bien dans ce livre, Après la maltraitance aux éditions de l'Homme, si on continue à excuser le parent, quelque part, on s'en sort pas, quoi.
C'est ça, on reste en fait sous l'emprise parentale, on reste dans ce discours, on a imprimé le discours parental, donc on reste en fait sous l'emprise du parent, et de cette manière-là, enfin tant qu'on est sous l'emprise du parent, on ne peut pas avancer, on ne peut pas traiter les traumatismes, donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir prendre du recul, développer un autre regard, accepter son statut de victime, et voilà, il y a tout un travail qu'on appelle cognitif, un travail un petit peu sur les croyances, sur les représentations à faire à ce niveau-là.
Il faut voir la réalité telle qu'elle a été, et pas continuer à se mentir un petit peu pour protéger quelque part, oui. Et alors, il y a une chose sur laquelle c'est assez nouveau, j'entends pas tellement ça. Vous dites, il faut pas hésiter à rencontrer le parent et lui parler. Je l'entends pas trop, ça. On a tendance à plutôt dire qu'il faut mettre le parent à distance.
Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein, ceci dit, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir, à un moment donné, dans le chemin de la reconstruction, se confronter aux parents. Alors, ça peut être dans un premier temps en imaginaire, hein, parfois même c'est nécessaire d'en passer par cette étape-là, par le biais d'une lettre, par exemple, hein, et donc de pouvoir exprimer à son parent, il s'est passé ça, moi, voilà comment je l'ai vécu, voilà les conséquences que ça a eu pour moi, et ça permet de réattribuer les responsabilités. Et c'est vrai que c'est souvent nécessaire d'en passer aussi par le fait de pouvoir en parler ensuite directement. Absolument. Aux parents.
En tout cas, c'est vraiment... vous insistez aussi sur le MDR, hein, on en parle assez souvent dans cette émission, mais qui est un principe oculaire, hein, pour évacuer un traumatisme. C'est une thérapie qui marche bien, notamment sur les violences sexuelles, je crois. Hein.
Alors, c'est vrai que pour tout type de violence, hein, moi je dirais que je l'utilise pour les violences psychologiques, physiques ou sexuelles, et c'est vrai que ça marche vraiment bien pour tout type de traumatisme, et même soi-même quand on a vécu beaucoup de traumatismes dans son enfance, on peut se dire ça va être un petit peu compliqué de tous les traiter. Même quand on n'en traite que quelques-uns, peut-être 3 ou 4, on peut s'attendre à un effet de généralisation sur l'ensemble des traumatismes, donc c'est vraiment une méthode que je conseille effectivement d'en passer par là pour traiter les traumatismes.
Merci beaucoup, Sarah Laporte-Daube. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. psychothérapeute, ça s'appelle « Après la maltraitance » aux éditions de l'Homme, et ça peut aider ceux qui ont subi de la maltraitance, qui ont envie de s'en sortir. Ça peut aider aussi le personnel soignant, parce que c'est vrai que parfois on a des patients qui vont pas bien, et on sait... Enfin, moi, je commence à le savoir. Malheureusement, les problèmes de santé, parfois, proviennent de maltraitance durant l'enfance. Bref, c'est un livre assez complet qui peut vous intéresser. Merci beaucoup, Sarah Laporte.
Merci à vous.
Ben, je vous en prie, merci. Alors, Arthur Vernon, on va conclure avec Benoît qui vient de nous appeler. Bonjour, Benoît.
Bonjour Brigitte, je vous transmets toute mon amitié, mon affection pour vous, parce que vous êtes vraiment une personne formidable que j'écoute depuis des années. Je fais beaucoup de routes et je passe beaucoup de temps avec vous, c'est très agréable. Je salue Monsieur Arthur Vernon également.
Bonjour Benoît.
Bonjour. Je voulais donc vous dire, Brigitte, j'ai un divorce d'une dizaine d'années, je cours un peu à droite, à gauche, tout se passe bien. Là, exceptionnellement, à cause de l'enfermement, depuis 10-15 jours, là, je me suis mis depuis une semaine sur deux sites, quoi. Mais en fait, je suis assez écœuré parce qu'il y a un gros trafic, une grosse escroquerie avec les petites jeunes qui amorcent les hommes pour leur arracher du pognon, et c'est invraisemblable ce qui se passe, quoi.
Vous voulez dire qu'il y a des petites jeunes femmes qui essayent de vous rencontrer,
mais contre de l'argent, avec des photos et tout, et après elles vous font marcher avec des tickets 30 cash ou des tickets néo-surf, des conneries comme ça, qu'elles arrivent à demander aux gars, ils sont tellement naïfs les pauvres, mais moi je me suis fait avoir dès le premier coup aussi, hein. Comme les autres blaireaux, pareil, mais je me suis fait avoir qu'à 50 euros, je me suis arrêté. En gros, dès que vous êtes à un rendez-vous donné à l'endroit, vous envoyez la photo parce qu'elle vous demande la photo, mais c'est pire que ça. Je crains même, moi, d'après ce que j'ai constaté, que ce soit un réseau de jeunes petits Africains qui soient bien, bien, bien au point dans le système, quoi. Parce qu'ils sont capables de vous balancer les photos et tout, et jamais à la caméra. Ces gens, ils ne vont jamais vous prendre à la caméra, jamais au téléphone.
Donc, si je comprends bien, vous avez envoyé de l'argent sans jamais rencontrer
la personne. Non. Vous envoyez le ticket, comme quand vous avez la preuve que vous avez acheté le ticket. Et dès qu'elle a le ticket ou il a le ticket, c'est plutôt il, j'ai l'impression. Hein, c'est des photos qui vous font marcher comme ça, juste pour vous faire marcher. Mais dès qu'ils ont la photo, paf, un clic, ils vous absorbent l'encaissement avec le numéro du ticket et vous l'avez dans l'os.
Mais il vous reste la photo, Benoît.
Ah non, c'est la vécue.
Ça fait un peu cher, la photo, je vous l'accorde, surtout que maintenant, on en trouve quand même beaucoup gratuite sur...
Ah, je tombe de haut, je tombe de haut, je ne savais pas que ça existait, ce genre de conneries.
Bah, moi non plus, merci de nous raconter ça. Après, Bernard, vous voulez...
Oui, Benoît, petite question. C'est sur un site de rencontre grand public ou un site un petit peu orienté? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend assez peu.
Oh, c'est. Après, là, c'est quoi déjà? YouLove, c'est.
Non, mais donnez pas forcément le site. Hein.
Vous avez des sites grand public et puis vous avez aussi des sites, on va dire, de rencontres dits de sugar daddy où là les filles se sentent beaucoup plus autorisées à faire ce type de manœuvre.
Mais moi, je crains que ça soit un truc qui est encore plus manipulé que ça encore, quoi. Hein. Parce que derrière, j'entends parler des
hommes. C'est un site classique. Benoît, c'est un site classique sur lequel...
Tout à fait.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a une nana, enfin, elle m'a balancé son téléphone, sa photo et tout, sur le site. Je l'appelle, elle me fait savoir qu'elle est... elle m'envoie un message, du moins, je ne veux pas l'appeler. Elle m'envoie un message comme quoi qu'elle est en Afrique, elle est en Côte d'Ivoire. Et deux jours après, il y a une personne qui me téléphone en me faisant passer pour elle. Mais en fait, c'est un mec qui me parle. Avec l'accent, je dis, mais tu te fous de ma gueule. Et derrière la personne, beaucoup de monde qui parle, vous savez comment c'est, beaucoup de personnes qui parlent et tout, qui braillent. Je dis, vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule immédiatement parce que ça marche pas, votre magouille, ça marche pas avec votre escroquerie, ça marche pas avec moi. J'ai donc raccroché.
Alors, un petit commentaire.
Pardon, allez-y, Arthur.
Allez-y. Oui, juste, en fait, c'est vrai que ça reste méconnu, ce que vous dites, et c'est très bien d'en témoigner de façon à sensibiliser éventuellement d'autres personnes pour éviter qu'elles en soient victimes. Cela dit, il y a un film, j'en profite, puisqu'on est dans une période de confinement, et parfois peut-être les auditeurs se demandent qu'est-ce qu'on peut regarder comme bon film aujourd'hui. Je recommande vraiment un film qui s'appelle « Seules les bêtes » de Dominique Moll, qui est sorti en 2019 et qui traite exactement de ce sujet. Hein, c'est-à-dire une arnaque sur Internet d'une personne qui se fait avoir, et effectivement, hein, c'est un réseau africain. Tout cela est merveilleusement expliqué dans ce film, qui est un chef-d'œuvre du cinéma. Et voilà, je veux dire, ce film est vraiment un chef-d'œuvre, donc n'hésitez pas, en période de confinement, Seules les bêtes de Dominique Moll, adapté du livre de Colin Neal, et c'est absolument formidable, et ça traite de ce sujet, entre autres, ça traite de plusieurs sujets, mais notamment de ce sujet, et on voit très exactement les mécanismes que ces fraudeurs mettent en place pour escroquer des Occidentaux. Un sujet très intéressant qui d'ailleurs s'appuie aussi sur la misère sexuelle masculine, donc ça rejoint la thématique de l'émission d'aujourd'hui, et c'est vraiment un film que je recommande vivement.
Mais donc, de manière générale, moi j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous allez sur un site de rencontre, il n'y a aucune raison de donner, alors que vous payez pour vous inscrire sur le site de rencontre, ça c'est une chose, mais ensuite il n'y a aucune raison de donner de l'argent pour rencontrer qui que ce soit. Benoît, vous êtes fait avoir une fois, c'est pas grave, mais c'est vraiment important de le signaler, parce que de toute façon, alors ce qui est toujours en plus ennuyeux, c'est que si vous envoyez de l'argent et que vous avez donné votre numéro de carte bleue,
mais le pire des trucs, c'est que la semaine dernière, j'étais avec une dame de 50 ans à Nice. Elle me dit carrément, je veux bien te rencontrer et tout, il n'y a pas de problème, mais là j'ai un gros souci qui est prioritaire, c'est que j'ai 3 mois de loyer de retard lundi, je suis dehors, donc tu m'envoies 2 100 euros, direct, cash. On est compte un peu ?
Fait cher, hein ?
Je ne disais pas tout ça, moi. Non, on va s'arrêter là tout de suite, on va couper court la discussion.
Alors, ce qui est possible aussi, c'est que ce que vous dites est un peu lié à la période qu'on traverse, parce que, a priori, les sites de rencontres, de ce que j'ai pu lire, ont une chute de fréquentation d'environ 50%, parce que les gens étant confinés ne peuvent plus se rencontrer. Donc, peut-être que c'est un terrain propice pour que certains escrocs profitent de nouveau d'une forme de misère affective et sexuelle des hommes pour se dire, tiens, ceux qui restent sur les sites de rencontres, c'est-à-dire ceux qui croient encore qu'on peut rencontrer quelqu'un en période de confinement, eh bien, je vais essayer de les escroquer. Et donc, vous faites bien de faire ce témoignage de façon à informer tout le monde que, oui, il y a des risques, et Brigitte a évidemment parfaitement raison, surtout lorsque vous êtes sur un site de rencontre, ne payez strictement rien, c'est évidemment le signe qu'il y a une escroquerie en face. Hein. C'est le cas, à mon avis, dans 100% des cas.
Bon, en tout cas, Benoît, je crois que là, vous êtes vacciné, hein, vous ne vous ferez pas avoir une deuxième fois. Hein. Mais c'est vrai que c'est le problème des sites de rencontres, hein. On ne sait pas à qui on a affaire. Je dirais que c'est pire que la vraie vie, hein. Il faut être d'autant plus méfiant sur les sites de rencontres qu'on l'est dans la vie. Mais on sait bien, ça fait très longtemps que j'entends que sur les sites de rencontres, on peut en effet avoir affaire à une femme qui essaye de vous alpaguer pour par la suite vous soutirer de l'argent. Ça, c'est... Bon, alors après, moi, j'ai jamais pensé que les femmes étaient vénales. Je pense que les femmes sont souvent plus dans des situations financières difficiles et elles se servent de ça pour elles se servent de leur charme pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, je pense que la femme n'est pas plus vénale que l'homme, et comme l'homme, il est souvent dans des besoins sexuels, il est parfois prêt à payer. Donc soyez prudent. Merci en tout cas, Benoît, de votre anecdote. Moi, ça me fait un peu sourire, mais c'est vrai que c'est pas très drôle, et surtout soyez prudent. Arthur Vernon, avant de conclure.
Oui.
Oui, oui, justement, je vais vous donner la parole, puisque justement, il nous reste 2-3 minutes, allez-y.
Oui, juste par rapport à ce qu'a dit Benoît, je pense aussi, et c'était le message du film Seules les bêtes, c'est que c'était même pas des femmes qui étaient derrière, mais c'était des hommes qui étaient en train de faire de la manipulation avec des photos. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Benoît avait du mal à téléphoner à son interlocutrice, parce que généralement c'est un homme et il ne peut que faire échanger des messages. Donc là c'est vraiment de l'escroquerie pure, même si ce que vous dites, Brigitte, peut évidemment exister aussi, mais là je pense que ce que Benoît a raconté relève de l'escroquerie, et qui elle pour le coup est encore plus plus davantage l'apanage de certains hommes, parfois dans des situations précaires, comme certains Africains qui montent ces arnaques sur des sites de rencontres occidentaux.
Oui, oui, mais c'est pas mal vu. Hein. De toute façon, on sait que les arnaques sur Internet, il y en a en tout genre. Et que de toute façon il faut faire attention. Arthur Vernon, on va terminer l'émission justement en revenant sur votre site mysuitefantasy.com. Donc vous avez la possibilité donc de réaliser les fantasmes. Les gens vous envoient leurs fantasmes et puis vous essayez de autant que possible de le réaliser. Je sais que ça marche bien. Hein, depuis ça fait quoi? Ça fait un an maintenant que vous l'avez créé.
Un an et demi, effectivement.
Un an et demi. Et alors ma question c'est, est-ce que c'est plutôt les hommes ou les femmes qui viennent raconter, même s'ils sont en couple, c'est plutôt la femme ou l'homme qui va venir s'inscrire?
Alors c'est vrai que lorsqu'on a des demandes de personnes seules, c'est surtout des hommes. Alors on a évoqué les fétichismes, un fétichisme du pied ou alors d'humiliation ou plein type de fétichisme très intéressant. Donc ça c'est plutôt des hommes qui nous contactent à ce propos. Et puis sinon, lorsqu'il s'agit de couple, c'est des demandes à la fois d'hommes ou de femmes. Et c'est souvent, on s'aperçoit pour un anniversaire, on veut faire un petit truc sympa pour l'anniversaire de monsieur ou madame, et donc on a monsieur ou madame qui nous contacte pour en profiter pour faire le fantasme.
Bon,
qui
est pas le fantasme de la personne,
mais un fantasme de couple.
Merci beaucoup en tout cas Arthur Vernon de ces deux heures passées ensemble. mysuitefantasy.com, et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse, à demain.